Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et oui, on vous l'avait dit, nos pubs ne sont pas mauvaises. Mais en tout cas, sachez que pour cette semaine, j'avais préparé un petit sujet qui était un peu piquant. Et oui, en effet... Ramisia Ortuk, qui est du coup une citoyenne turque, qui est inscrite à un programme doctoral en études de l'enfance et développement humain à l'université de Tufte. Selon son profil LinkedIn, elle détenait un visa étudiant valide avec un master de Teacher College de Columbia University. Et en mars 2024, elle a co-signé un article d'opinion dans le TOEFL Daily qui critiquait la réponse de l'université aux résultats du Sénat étudiant, qui demandait de reconnaître le génocide palestinien et de désinvestir des entreprises ayant des liens directs et indirects avec les Israël. Ces articles qui ont du coup coécrits par 4 étudiants et soutenus par 32 autres s'inscrivaient dans un contexte de protestation étudiante contre la guerre de Gaza, amplifié par des événements comme les attaques du 7 octobre 2023 par le Hamas et le bombardement subséquent. En tout cas, les protestations pro-palestiniennes à Tuf, documentées dans les articles comme celui de Boston Herlitz, ont permis et ont inclus des marches de sit-ins et de demandes de désinvestissement, reflétant notamment un mouvement assez national dans le cadre du campus universitaire. Vis-à-vis de ça, Öztürk, qui n'était pas qu'une figure de proue, mais aussi de par son implication dans l'article, a exposé à des critiques, notamment de la part de Canary Mission, qui est un site de documentant les activités anti-Israël sur les campus, qui a cité l'article comme activiste anti-israélien. Et bah, ce 25 mars 2025, Öztürk a été arrêté par des agents de la DHS près de son appartement à Somerville alors qu'elle se rendait à un dîner pour rompre le jeûne du Ramadan. La vidéo de l'arrestation obtenue par The Boston Globe a permis de montrer des agents masqués et en civil l'approchant, lui enlevant son téléphone, la menottant malgré ses cris. Cette vidéo décrit est assez même troublante par l'avocat général de Massachusetts et a été largement diffusée pour alimenter les protestations. Car en effet, les autorités, via un porte-parole de la DHS, a déclaré que son visa a été révoqué par activité de soutien au Hamas, une organisation terroriste selon la CBS Boston. Vis-à-vis de ça, du coup, on peut observer aussi que cependant, aucun détail précis n'a été fourni sur ses activités. Son avocat, Masha Kambay, a affirmé qu'aucune charge n'avait été déposée à ce jour. Donc, l'arrestation avait été faite à l'instant T, sans que la prohibition de son visa ait été d'actualité. Pour faire simple et pour faire comprendre ce que je viens de dire, elle a été arrêtée alors qu'on n'avait même pas encore déposé un dossier pour inclure que son visa était clôturé. Vis-à-vis de ça, du coup, aucun détail précis n'a été fourni. Mais en tout cas, Öztürk a été transféré dans un centre de détention ICI en Louisiane malgré une ordonnance d'un juge fédéral pour la maintenir dans le Massachusetts. Ce qui a soulevé des questions sur le respect des procédures aussi également juridiques selon NBC Boston. Et oui, en effet, l'arrestation a soulevé plusieurs dimensions légales. La révocation du visa repose sur la loi américaine qui permet de retirer un visa étranger engagé dans des activités menaçant la sécurité nationale, y compris le soutien des organisations terroristes. Cependant, le lien entre l'article d'opinion d'Öztürk et le soutien à Hamas est controversé. L'OPED critiquait la réponse de l'université, pas directement Hamas, ce qui suggère une interprétation large et ou potentiellement abusif des lois comme discuté par The Washington Post. En tout cas, l'éthique et l'arrestation par les agents masqués et en civil sans explication immédiate a été perçue comme une atteinte aux droits, notamment à la liberté d'expression, car en effet, dans la vidéo, ces droits ne lui sont pas cités, ni aussi les causes de son arrestation. Pas de figure, pas d'explication. En gros, c'est la représentation démocrate Anya Pressley qui a qualifié cela de violation horrifiante des droits constitutionnels. Et oui, philosophiquement, cet incident s'inscrit dans un contexte de répression des activités pro-palestiniennes sous l'administration Trump avec des ordres exécutifs visant à déporter les non-citoyens participant à des protestations comme rapporté par The TOEFL Daily. En tout cas, politiquement, l'incident a galvanisé les protestants et les protestations avec plus de 2000 personnes manifestant à Somerville, selon Forbes, et également des appels à la transparence, à la libération d'Öztürk. L'ambassade turque suit de près la situation en France, soutien consulaire selon NBC. En tout cas, ça reste actuellement les majeures parties des informations que j'ai pu retrouver. Moi, je vous demanderais, selon vous, est-ce que
Factuellement, l'arrestation d'Orstowski reflète telle une application juste des lois de l'immigration ou alors on est face vraiment à une répression politique.
C'est un peu une zone grise, en fait, parce que techniquement, le DHS a beaucoup de pouvoir, surtout en temps... maintenant que Trump a déclaré l'acte des aliens... acte, en fait, qui est seulement fait en temps de guerre habituellement. Là. Donc, ça leur donne un pouvoir qui est beaucoup plus grand que ce qu'ils devraient avoir habituellement. Là. Donc, techniquement, si je peux dire ça comme ça, ils suivent les règles qu'ils auraient droit de faire. Par contre, c'est vraiment une zone grise en termes de est-ce que Trump avait le droit de déclarer, de réactiver cet acte-là? Est-ce que leurs techniques sont un peu aussi douteuses dans le sens que, bon, c'est des agents masqués en habits de tous les jours, donc ils n'ont pas de... si je me souviens bien sur la vidéo, là, je vois qu'ils ont des badges au cou, mais c'est très...
C'est pas visible, tu vois.
C'est
même, en fait, c'est surtout que dans le fait, contextuellement, comme j'ai dit, on ne lui a pas expliqué les faits, ni ses droits. Dans la vidéo. Exactement. Donc en gros, c'est comme si je te dis, genre, tu vois, genre, tu te balades. Tiens, je prends le monsieur à ma droite. Le monsieur se balade et j'ai mon masque et je l'attrape. Je lui fais, tiens, mets les menottes. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, c'est fou. Mais au-delà de ça, en fait, moi, j'ai envie de me demander, est-ce que actuellement, jusqu'où aussi la liberté d'expression des étudiants internationaux se doit d'être protégée? Surtout sur des sujets sensibles comme certains conflits ou autres, est-ce que parfois on peut se permettre d'être à ce point équivoque, sachant que c'était surtout un document d'opinion et de critique qui a été publié de la part de cette jeune étudiante?
Ben, c'est ça, c'est difficile à dire parce que c'est ça. La liberté d'expression, surtout aux États-Unis, c'est quelque chose qui est vraiment clamé comme étant leur liberté première et leur liberté absolue,
dans
le fond.
Parce que moi, j'avais compris de ce que j'avais compris aux États-Unis, tu vois, tu peux être raciste, c'est un point de vue, quoi.
Oui, exactement. À peu près, oui, c'est à peu près ça. En fait, c'est la liberté d'expression. Mais c'est que c'est souvent aussi un peu mal interprété, comme beaucoup des articles de la Constitution des États-Unis. Là. Mais c'est que la liberté d'expression, en fait, c'est que c'est fait en sorte que le gouvernement ne peut pas se retourner contre toi par rapport à ce que tu dis, dans le fond, c'est un peu... dans le fond, c'est que ça permet... Il y a certaines limitations en termes de entre citoyens, disons. Tu peux pas nécessairement appeler à la violence, des choses comme ça. Mm-hmm. Mais la liberté d'expression mentionne que tu es libre de dire ce que tu veux et que le gouvernement ne peut pas se retourner contre toi. Donc là, ça joue un peu là-dessus. Là, que...
C'est plus du tout en vrai le cas, mais après, c'est surtout que ça se joue sur la subtilité qu'elle n'est pas citoyenne américaine en soi.
C'est ça.
Donc, que ces lois ne s'agissent plus sur elle, est-ce que c'est compréhensible? Moi, sur un plan national, je peux comprendre certaines positions, mais après, de là en arriver pour un sujet critique et d'accuser aussi d'apparition avec le Hamas sans fondement réel, suscite beaucoup de débats et de questions. À se demander si la sécurité des étudiants ou même d'autres travailleurs internationaux est-elle valable aux États-Unis? Telle est la question. En tout cas, je vous laisse méditer, chers auditeurs, auditrices, car quand même, cet incident illustre pas mal de tensions entre sécurité nationale, liberté d'expression et droits des étudiants internationaux. Ça reste des points toujours importants à rébattre, surtout pour nous dans notre situation, et il est nécessaire de mettre en place un dialogue avec les autorités, les universités, voire même les communautés pour clarifier les limites légales et se protéger, notamment de vos droits, tout en adressant à la préoccupation de sécurité. Ce débat façonnera notre approche des activités étudiantes dans un contexte plus global, j'espère, et limitera la polarité de celui-ci. En tout cas, je vous laisse avec encore une pause pub, car j'aimerais débattre encore avec madame et je ne peux pas. Sachez que je me retiens à chaque fois. C'est très dur, mais il faut bien qu'on paye le loyer, les gars. Mais avant tout, on vous met un peu de musique, car c'est une radio quand même.